RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac.
Bonjour. En France, une personne sur sept vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1000 euros par mois. Certaines dorment dans la rue, mais la plupart d'entre elles sont des invisibles. Des milliers de familles qui vivent dans des logements insalubres, des camions ou encore des hôtels miteux. Le centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand accueille des familles fragilisées par des précarités dans tous les domaines. Logement, travail, vie familiale, santé. Elles ont besoin de pouvoir se poser dans un logement qu'elles savent garantir pour plusieurs années. Elles ont aussi besoin de retrouver une vie sociale qui leur permettra de construire leur vie familiale. La mission du centre de promotion familiale ne consiste donc pas seulement à procurer un logement, elle est aussi de permettre aux familles d'être autonomes en les accompagnant au plus près. Le centre de promotion familiale d'ATD Carmonde, un toit pour démarrer une vie nouvelle en cette journée mondiale du refus de la misère. C'est un grand reportage, signé Laurent.
C'est une majorité de guppies. Là, vous avez un corridorat. Il y a eu plein de naissances. Vous voyez, il y a plein de bébés.
Oh là là, oui.
Il y a eu des naissances.
Pourquoi vous aimez tant les poissons?
En fait, je trouve ça vraiment très apaisant. On peut rester des heures devant et oublier tous nos soucis, vraiment.
Regarder les poissons battre des nageoires dans le silence de l'aquarium, se poser enfin dans un vrai appartement avec des portes et des fenêtres, des lits et des draps frais. Sentir enfin le calme en regardant l'eau et observer les poissons qu'on appelle les combattants. Combattante Stéphanie l'a été et elle continue sa croisade pour vivre dignement avec ses deux enfants. Car avant de se poser un peu, la jeune femme a connu la spirale de la misère. Cheveux noirs, visage doux et la peau très claire, Stéphanie ne correspond pas à la caricature du pauvre. Elle a 38 ans, mais elle en paraît 10 de moins alors que la misère abîme. Et elle s'exprime avec un vocabulaire précis et recherché. C'est avec une grande capacité d'analyse qu'elle raconte ses années de calvaire.
À la base, j'avais une situation très stable, fonctionnaire, propriétaire de mon appartement avec un conjoint. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup de problèmes psychologiques, du coup, suite à beaucoup de problèmes dans mon enfance. J'ai fait un abandon de poste, ce qui a entraîné plus assez de moyens pour pouvoir payer le crédit de l'appartement. On a dû le vendre en urgence pour pas qu'on nous le saisisse. Bon, ce qui a entraîné une séparation, bien sûr. Je suis retournée vivre chez mes parents.
Stéphanie et ses enfants trouvent donc un toit chez ses parents, gravement malades, et dans un appartement insalubre.
Ce logement était dans une cité totalement délabrée et infestée par les punaises de lit. Donc je vous parle de ça, c'était en 2010. Les punaises de lit avaient infesté 193 logements sur les deux tours de mes enfants et moi-même. On dormait à même le sol sur des couettes parce qu'il avait fallu jeter encore une fois les matelas qui étaient redevenus infestés. Les punaises étaient dans les plinthes. On nous avait dit qu'il faut arracher le papier peint. Quand on arrachait le papier peint, le mur il venait avec. En fait, on a vécu un enfer.
Sophia, la fille de Stéphanie, a 13 ans. Elle a de grands yeux noirs. Son sourire toujours en grand écart lui donne un air malicieux. Elle ne se plaint jamais, mais se souvient.
À cause des punaises de lit, on ne pouvait pas se lever parce qu'on était trop fatigués, ça nous grattait. Du coup, on se levait un peu plus tard. Du coup, on allait à l'école. En gros, on grattait le matin et la cantine. Et du coup, on allait l'après-midi.
La scolarité des enfants est au cœur des préoccupations du centre de promotion familiale. Mais l'insertion sociale ne peut pas être à sens unique. Grand et mince, un air de gamin au regard obstiné et au sourire retenu, Yann Bertin est le directeur du centre.
On pourrait dire on est avec des familles particulières, donc des familles qui ont connu l'errance, donc des enfants qui ont été beaucoup déscolarisés. Et puis quand ils se retrouvent dans le cadre de l'école, l'école du quartier, ça pose beaucoup de problèmes. Mais il n'est pas question de faire une école à part pour ces enfants. Par contre, il faut que les écoles du quartier trouvent les moyens pour que ces enfants qui ont un parcours de vie difficile aient toute leur place à l'école.
Les punaises de lit et l'insalubrité mettront à terre la petite famille. Elle sera expulsée.
Toute la famille, on était vraiment dans une situation dramatique. Moi, j'ai alerté tout le monde, bien sûr. On a arrêté de payer le loyer. Malheureusement, on n'aurait pas dû faire ça, mais j'ai appelé l'hygiène. Ils sont venus, ils ont bien vu que c'était grave. On nous a laissés dans cette situation. Qui a abouti à une expulsion, bien sûr. En 2015, on a tous été expulsés.
Après l'expulsion, grâce aux services sociaux et à son éducatrice, Stéphanie et ses deux enfants seront relogés dans un hôtel qui n'héberge que des familles dans la misère. L'hôtel est miteux, mais ce n'est pas la rue. Le visage de Stéphanie se ferme lorsqu'elle explique que ses enfants ont failli être placés.
Malheureusement, mon grand-fils il a sombré dans la délinquance. Il est actuellement d'ailleurs incarcéré. Et ça a alerté le juge pour enfants. Il a été alerté quand il a su qu'il y avait des frères et sœurs. Donc là, ils ont vu qu'on vivait à même le sol, les enfants déscolarisés la moitié du temps parce qu'ils dorment la journée. Donc, bah oui, mes enfants ont failli être placés. Et c'est l'éducatrice qui s'est battue vraiment le jour du jugement, qui s'est battue pour que mes enfants restent avec moi.
Sophia, est-ce que tu voulais rester avec ta maman à tout prix ?
Bah oui, je lui ai dit en plus un oui. De toute façon, j'allais pas y aller.
Est-ce que, à un moment donné, tu en as voulu à ta maman d'être pauvre, que vous soyez dans cette situation-là ?
Non, jamais.
Pourquoi ?
Elle a toujours tout fait. Par exemple, si ma mère, elle mangeait pas, bah en fait, elle mangeait pas parce qu'elle faisait tout pour nous.
La cité de Noisy-le-Grand s'appuie sur une action communautaire et culturelle qui s'étend à tout un quartier. Finis les anciens immeubles vétustes, depuis plus d'un an, les 35 familles prises en charge par l'association ont emménagé dans une résidence neuve à l'architecture soignée. Nous sommes en compagnie de Yann Bertin, directeur du centre.
La promotion familiale, en fait, se situe sur les lieux mêmes du bidonville de Noisy-le-Grand, qui s'est construit après l'appel de l'abbé Pierre en 1954.
Dans ce village étape de Noisy-le-Grand, dans cette ambiance de malheur, transperce de ci de là.
Le bidonville a été résorbé au début des années 70, et ATD Quart-Monde a souhaité continuer un projet. Donc le projet de promotion familiale sur ce site.
L'insertion par le logement, avec comme partenaire le bailleur Emmaüs Habitat, a toujours été le projet phare du centre de Noisy-le-Grand. Nous retrouvons Stéphanie. Elle porte une robe en lainage noir et blanc, la seule qu'elle possède, mais elle lui va bien. Sophia, sa fille, est à l'ordinateur sur le canapé, sur la table, du café chaud et des biscuits. Une attention douce pour qui vient les interviewer. Sophia se souvient du jour où elle a découvert l'appartement. Elle s'emporte.
C'était grand, c'était propre, enfin, comme on n'avait pas les meubles, c'était grand. Je me suis dit, non, je vais dormir là, à plus quand j'ai vu ma chambre.
Sa vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le temps où elle vivait dans un hôtel.
Parce qu'en fait, quand j'étais à l'hôtel, moi, je me disais tout le temps, ouais, je suis trop différente et tout. J'ai l'impression d'être rien, alors que je peux être, grâce à maintenant, je peux être tout.
Les locataires signent une convention de 18 mois renouvelable et s'engagent à payer leur loyer, même modeste. Ils entrent ensuite dans une seconde phase de relogement, dans un habitat pérenne. Bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, Yaya est venue rendre visite à ses enfants.
Bonjour Sophia, comment ça va ma fille ? Très bien.
C'est important, Yaya, de pouvoir venir voir vos enfants ?
Non, bien sûr, c'est très important, c'est même primordial. C'est la base, c'est ma base en fait.
Et c'était une chose qui n'était pas possible avant, hein, quand la petite famille était à l'hôtel.
Non, c'était très compliqué, c'était un véritable cauchemar.
Donc le logement permet quoi, monsieur ?
Alors, le logement permet une stabilité, d'être posé et de pouvoir avancer. C'est surtout pour les enfants, et même moi j'ai vu l'évolution des enfants dans leur psychologie. Ça les a carrément... c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Mais ils sont beaucoup plus calmes, plus stables et plus éveillés du fait que chacun ait leur chambre déjà, ne serait-ce que ça. Donc ça fait un peu des enfants un peu comme tout le monde.
Hey, papa, oui, je t'ai vu vers 8h.
Et ça s'est bien passé, Yannis, l'école ?
Oui.
L'objectif du centre de promotion familiale n'est pas d'assister les familles, mais de les accompagner. Tout a été pensé avec une grande finesse. Stéphanie se tient fièrement dans une pièce qu'elle avait fini par oublier, la cuisine.
Il faut savoir qu'au début, quand on arrive ici, on n'a rien. Je suis arrivée les mains dans les poches avec juste des vêtements. Parce qu'à l'hôtel, on n'a rien. On a tout perdu quand on a été expulsé. Et on arrive ici, c'est pas comme si ils nous laissent à l'abandon. J'ai eu un frigo, une machine à laver, des plaques de cuisson, vraiment une table, des chaises, de la vaisselle, un seau, une serpillière. Ils ont pensé à tout, des serviettes de toilette, couettes, oreillers, lits, matelas. Parce qu'ici, c'est pas juste un toit. C'est fait pour se réinsérer. C'est un tremplin, on va dire. Ici, c'est fait pour rebondir. Et franchement, le fait d'arriver ici, ça m'a vraiment donné une impulsion, une autre envie de m'en sortir. Donc tout de suite, j'ai fait un stage de coaching pour l'emploi. J'ai trouvé un travail tout de suite.
Le centre prête du matériel pour que les familles puissent immédiatement démarrer une nouvelle vie. Mais ce n'est pas un don.
La famille, au fur et à mesure de, qu'elle va être ici, avec, en travaillant avec l'assistante sociale, elle va acquérir petit à petit son propre électroménager et ses propres affaires et va rendre cela, et elle va rendre après le kit au centre de promotion familiale. Et c'est assez extraordinaire, hein, parce que des familles qui viennent ici avec rien, toutes rendent le kit. Et elles ont conscience que ça va servir à d'autres qui, comme elles, avant, n'auront rien.
Depuis quelque temps, grâce à l'aide de son assistante sociale, Stéphanie a trouvé un travail à mi-temps. Elle est assistante administrative dans les Fleurs, à Rungis. À 2 heures de chez elle, elle gagne un salaire de 550 euros par mois.
Oui, le loyer ici est de 573 euros. J'ai droit à des APL, énormément d'APL au vu de ma situation.
Est-ce que votre reste à vivre, il est de combien, comme on dit?
Une fois que j'ai payé toutes les charges.
Oui.
Voilà. Une fois que j'ai payé toutes les charges, on va dire, il me reste 300 euros.
Avec un reste à vivre de 300 euros par mois, la famille se prive. En France, la pauvreté ne cesse d'augmenter. En 2015, on comptait 8,9 millions de personnes pauvres. Au cours des 10 dernières années, leur nombre a augmenté d'un million. Aujourd'hui, 2 300 000 personnes vivent avec moins de 670 euros par mois. Pour certains locataires, longtemps privés de toit, il y a tout à découvrir. Ils ne savent pas très bien comment habiter un logement, les limites à ne pas franchir. Stéphanie.
Il y a un côté qui est super, c'est-à-dire faire cohabiter des familles qui viennent de tous horizons. Ici, il y a mon parcours, mais les gens, ils ont chacun leur parcours qui est différent, mais qui fait qu'ils sont tous arrivés au même point à la rue. Mais je ne comprends pas, ça va trop loin. Jeter sa poubelle par la fenêtre, c'est une évidence que ça se fait pas.
Des parcours de vie chaotiques, des nationalités, des origines et des cultures différentes composent forcément un cocktail explosif. Mais pour Yann Bertin, pas question de sélectionner les familles.
On doit avoir des familles très pauvres, des familles qui sont rejetées par la société, qui ailleurs ne trouvent pas leur place. Il faut qu'elles soient ici et qu'on trouve avec elles les moyens pour qu'elles puissent être bien et bien au milieu d'autres.
Pourquoi ?
Parce que si on veut construire une société où on ne met pas certaines personnes de côté, il faut construire à partir de ces familles-là. On pourrait très bien choisir des familles qui ont eu un petit problème de logement, qui savent déjà bien se comporter, des familles bien sous tout rapport. Non, on veut des familles qui pose des problèmes à la société. Et elles vont nous en poser.
On rencontre Georgette dans l'escalier, elle est volontaire à TD, habite l'immeuble et elle veille à ce que tout se passe bien.
Pour moi, c'est vraiment un choix d'être avec les familles, de familiariser un peu plus avec les familles qui sont en précarité. Moi, je viens d'un pays qui est très pauvre. J'ai vécu la pauvreté. Je pense que c'est bien d'être avec les familles.
Vous avez été touchée personnellement par la pauvreté.
Oui, c'est ça.
Vous venez de quel pays?
De Madagascar.
Le rôle de Georgette, comme tous les volontaires qui habitent dans la résidence, c'est d'être de bons voisins. C'est de trouver le comportement qu'il faut pour que les familles s'y apprennent à vivre dans un logement alors qu'elles n'ont pas eu cette expérience-là avant. Être un bon voisin, c'est réagir quand il y a des problèmes, mais c'est de réagir de telle sorte que la famille va progresser après, que ça ne va pas la casser.
Et quelle joie pour toute l'équipe du centre quand les familles vont de l'avant.
Il faut voir aussi les énormes progrès qu'ils font. Enfin, c'est des familles qui, quand elles ont arrivé, n'avaient pas les moyens de payer leur loyer et qui maintenant sont autonomes, enfin, sur le paiement de leur loyer. Et certes, encore beaucoup de choses à améliorer en termes de voisinage, peut-être, en termes d'entretien du logement, mais déjà des progrès énormes ont été faits.
L'objectif, ça va être déjà de s'échauffer. Donc, je vais faire de l'accordéon. Dans tout l'espace. Quand je joue, vous jouez, vous partez, vous marchez dans tout l'espace. OK ? Stop ! Cri de guerrier ! C'est pas des guerriers, là.
Les enfants sont eux aussi accompagnés. Il s'agit d'établir un lien de confiance pour les convier à une multitude d'activités. Le pivot culturel accueille les enfants à partir de 6 ans. Denise est une enfant intrépide. Elle fixe le regard avec ses yeux bien dessinés et se présente.
J'ai 8 ans, je m'appelle Denise.
Tu habitais où avant ?
En Robespierre.
Dans un hôtel ?
Non. Dans un... Je sais plus.
Tu sais plus comment ça s'appelait ?
Non. Je peux pas le dire, parce que j'ai pas envie.
Ah, t'as pas envie de dire où tu habitais avant ?
Un bungalow.
Dans un bungalow.
La petite fille roumaine de 8 ans aime beaucoup être sur scène. Comédienne, directrice de troupe, Axel David anime l'atelier théâtre. Pour elle, il est important que les enfants s'approprient un espace et se découvrent.
On leur donne un cadre pour s'exprimer. Déjà, il faut qu'on assume ce qu'on est tous, que ce soit les adultes, les enfants, les ados et quelle que soit la classe sociale. Pour le travail du clown que j'avais fait il y a longtemps à la fac, je m'étais rendu compte que pour pouvoir jouer d'autres personnages, il faut d'abord savoir qui on est. Donc, il faut avoir conscience de sa façon de parler, de l'image qu'on renvoie, de ses émotions principales, de sa personnalité. Denise, qui est charismatique et qui est un petit peu une leaduse, qui n'aime pas forcément faire comme les autres, elle va avoir le rôle de la leaduse, de la reine des fées.
Parce que j'aime bien faire le théâtre. Une fois, j'ai fait des lettres la fée. C'était trop bien. On a fait plein de choses avec Axel. À chaque fois, il a fait théâtre.
Laurence Villain est responsable du pivot culturel.
Et à travers le théâtre, les enfants disent beaucoup d'eux-mêmes, peuvent vivre leurs émotions, peuvent vivre leurs peurs, sans avoir peur, j'allais dire, sans avoir honte de ce qu'ils sont, parce que c'est pas eux, c'est un personnage, c'est un jeu. Et ça, c'est très important pour les enfants.
Et pour ces enfants qui ont connu la violence de l'exclusion, le pivot culturel est un espace de liberté.
Leur existence n'est pas reconnue. Et donc, il y a des confrontations et tout un apprivoisement. Et le pivot est vraiment là pour ça.
Et j'ai une question. Et pourquoi on fait un dessin et on gaspille trop de peinture ?
Non, mais non, on ne gaspille pas de peinture. En fait, ce que je te dis, c'est qu'il ne faut pas mettre trop d'eau et trop de peinture. Sinon, ça coule ce qu'on descend et ça coule par terre. Mais on ne gaspille pas de peinture. Il ne faut pas en mettre trop sur ton passant.
Cette fois, la petite troupe a enfilé une blouse de peintre. Des feuilles blanches ont été clouées sur le mur. Et au centre de l'atelier, il y a une palette de couleurs. Anne Colcy anime l'atelier.
En fait, l'idée, c'est vraiment qu'ils aillent de l'espace de la palette au milieu de la pièce, comme vous pouvez voir, qui est un espace collectif. Les enfants se retrouvent et ils choisissent les couleurs de peinture et ils vont vers leur espace individuel qui est leur feuille à eux, qui est accrochée au mur. Donc c'était particulier ça par rapport à un atelier peinture classique. D'accord, on va mettre une autre feuille. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que...
Réda, s'il te plaît. Choisir une feuille, allez, vas-y.
Ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a pas du tout de consignes, il n'y a pas de thème par séance. Les enfants sont libres de peindre librement ce qu'ils veulent, il n'y a aucun thème. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dire à l'enfant c'est joli ou pas beau. Ils sont là pour eux-mêmes, pour peindre, pour prendre conscience que tout le monde peut créer quelque chose.
Les enfants qui viennent au pivot culturel ne sont pas uniquement issus du centre de promotion familiale. Ils sont aussi rejoints par les enfants du quartier. La mixité est très importante. Ici, à Noisy-le-Grand, les volontaires et les bénévoles d'Atelier Quart-Monde créent une communauté humaine qui porte les familles les plus vulnérables. Le mot de la fin revient à Yann Bertin, directeur du centre de Noisy-le-Grand.
La grande pauvreté, c'est transgénérationnel. C'est pas un accident de la vie. C'est aussi le poids c'est tout un héritage. Voilà. Et c'est pour ça que ça a du sens, selon moi, l'action d'Atelier Quart-Monde, parce qu'il s'attaque justement aux problèmes rencontrés par ces personnes et ces familles qui dépassent leur simple vie, mais ces problèmes que connaissaient aussi leurs parents, leurs grands-parents, et voilà.
Alors refuser la misère, c'est peut-être demander à la société de réunir toutes ses forces pour qu'elle ne soit plus héréditaire. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce reportage pour leur témoignage. Le centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand, un toit pour démarrer une vie nouvelle, un reportage de Laurence Théo, réalisé par Mathias Taylor.